France Culture.
Les nuits de France Culture.
Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrêmement, en endure en froidure. La vie m'est trop molle et trop dure.
Les historiens, soucieux de rendre aux femmes la place qui leur revient dans l'histoire des luttes sociales, se heurtent immanquablement à une réalité statistique, la sous-représentation de la gente féminine à la tête des grands mouvements politiques et syndicaux jusqu'à une période très récente. Le Métron lui-même, le grand dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, le Métron dont la démarche consiste pourtant à mettre en lumière la vie des anonymes ou des figures oubliées des luttes sociales, ce Métron ne consacre que 5% de ses notices biographiques à des femmes, dixit son directeur Claude Pentier, qui s'exprime en compagnie de Christine Barr et de Gilbert Badia dans l'émission Que voici. Ce chiffre de 5% serait, selon lui, le reflet de la place des femmes dans l'histoire du mouvement ouvrier. Mais ce chiffre s'explique sans doute aussi par la façon dont ce rôle des femmes a été perçu pendant longtemps par les historiens. Ce numéro des Lundis de l'Histoire par Michel Perrault est en tout cas l'occasion de poser clairement ces enjeux historiographiques. D'abord avec une longue évocation du Métron, puis en deuxième partie d'émission autour de deux biographies de femmes militantes, Clara Zetkin et Madeleine Pelletier. C'était le 19 avril 1993 dans les Lundis de l'Histoire.
Bonjour. Vie ouvrière et féministe, tel est le titre et l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons parler de vie militante qui se distingue par leur engagement pour une cause. En l'occurrence, ce qu'on appelle le mouvement ouvrier et le féminisme. Nous allons parler surtout de leur mise en récit, que ce soit sous forme de biographie classique ou de dictionnaire. Biographie. Voici celle de Clara Zetkin, féministe sans frontières, selon le titre choisi par Gilbert Badia. Gilbert Badia, vous êtes professeur à Paris 8, vous êtes un éminent spécialiste d'histoire de l'Allemagne contemporaine, et vous nous expliquerez pourquoi vous avez été passionné par la figure de Clara Zetkin. Biographie encore, celle de Madeleine Pelletier, écrite par Charles Sauerwein, qui est professeur en Australie, et Claude Ménien, qui est une jeune historienne. Ces deux auteurs ne pouvant être présents, j'ai invité Christine Barr, jeune historienne qui prépare une thèse sur le féminisme de l'entre-deux-guerres et qui a d'autre part dirigé sur Madeleine Pelletier un colloque qui vient également de paraître aux éditions Côté Femmes et dont nous parlerons également. Ces deux biographies sont d'ailleurs le signe d'une redécouverte de femmes inconnues. Nous aurions d'ailleurs pu également parler d'une autre biographie tout à fait passionnante que nous ne pourrons que mentionner ce matin, celle de Sylvie Brébant, consacrée à Elisabeth Dimitrieff, aristocrate et pétroleuse, avec une très belle préface de Gilles Perrault et qui vient de paraître aux éditions Bellefond. Le dictionnaire. Alors le dictionnaire, il s'agit du célèbre dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Nous verrons d'ailleurs qu'il y a aussi des éditions des dictionnaires étrangers. Ce dictionnaire, on l'appelle le Métron, comme on dit la plupart du temps, du nom de son créateur, Jean Métron. Le premier volume de ce dictionnaire est paru en 1964 aux éditions ouvrières, il y a donc presque 30 ans. Or, il vient de s'achever par le tome 43 et dernier, consacré aux militants dont les noms vont de Val à ZY, 1914-1939. Et d'ailleurs, ce dernier volume se termine de manière très émouvante par la notice d'un certain Chil Zidnicki, dont on nous dit qu'il est né en 1905 à Kaliz, Pologne occupée par l'Allemagne, qu'il est arrivé à Paris en 1929. C'est un jeune ouvrier en imperméable. Il était membre de la commission syndicale des travailleurs juifs. Il était militant et meneur de grève en 1936. Et, nous dit sa notice, le 30 octobre de la même année, il partit comme volontaire dans les brigades internationales en Espagne. Il se trouva sur le front de Madrid, participa activement à la défense de la capitale. Il fut tué le 21 décembre 1936 lors de la défense du quartier de l'université. En quelques lignes, voici condensée la beauté tragique d'une vie. Claude Pentier, vous êtes historien, vous êtes au CNRS, vous avez été collaborateur de Jean Métron depuis une vingtaine d'années, et vous avez, après la mort de Jean Métron en 1987, continué et mené à bien le dictionnaire. Donc on vous doit la fin de cette œuvre. Et avec vous, nous allons retracer l'histoire de cette œuvre tout à fait considérable et en même temps lieu de mémoire extraordinaire. Alors je voudrais d'abord vous demander, Claude Pentier, vous avez bien connu Jean Métron, d'ailleurs nous sommes plusieurs autour de cette table à l'avoir très bien connu. Jean Métron 1910-1987, ça le situe dans plein cœur de ce siècle. Il a une vie tout à fait emblématique, qui est symbolique d'une tradition du mouvement ouvrier français, d'une tradition républicaine libertaire. Qui était-il, Jean Métron, Claude Pentier? Racontez-nous un petit peu.
Oui, en disant que Jean Métron est né en 1910, je m'aperçois qu'il y a 37 ans de différence entre lui et moi. Et finalement, je ne l'ai pas toujours mesuré, cette différence. Bien souvent, je me suis senti proche de quelqu'un comme Jean Métron, qui avait une capacité de mettre très à l'aise les jeunes historiens, de travailler avec des gens extrêmement diversifiés, et d'avoir produit une nouvelle génération avec laquelle il a su entretenir des rapports à la fois non hiérarchiques, fraternels, tout en jouant son rôle pleinement. Et je crois qu'il était souvent, comme ça dans la vie, intense, ouvert aux autres, prêt à saisir des différences, prêt à discuter des différences. Et je crois que cette caractéristique qu'il différencie à la fois du militant syndical ou politique, ou qu'il différencie traditionnel, jouant un rôle dans les appareils, ou qu'il différencie de l'universitaire, vient du fait qu'il est doublement atypique.
Il est atypique comme
militant. Et il est atypique comme universitaire, parce que comme militant, il est passé dans des courants divers, et dans le fond, il n'a jamais adhéré totalement à un courant. Il a été, quand il était étudiant à Paris, un petit peu attiré par le Parti communiste, ensuite il a été adhéré par le mouvement trotskiste, et puis il est revenu au Parti communiste à l'époque du Front populaire, mais jamais de façon pleine et complète. C'est-à-dire qu'il était en effet membre du Parti communiste au moment des événements d'Espagne, mais il regardait avec beaucoup d'attention l'évolution du POUM, il regardait avec beaucoup d'inquiétude les procès de Moscou. Il avait un propos qui est un propos à lui sur l'ensemble de ces problèmes. Et s'il a été militant, investi complètement à cette période-là, c'était pour défendre les enfants qui étaient emprisonnés dans les bagnes d'enfants. Il était secrétaire d'une association de défense de lutte contre les bagnes d'enfants. Donc, dans le fond, quand Jean Métron devient historien, il devient historien pour pouvoir rendre compte du mouvement ouvrier dans sa diversité et comprendre pourquoi il a combattu certains courants, pourquoi il a pu en approuver d'autres. Et sa redécouverte de l'anarchie, c'est non pas de sa part une adhésion à l'anarchie, quand après le pacte germano-soviétique, il rompt, mais alors là, définitivement, avec le communisme, le stalinisme, c'était un drame. Oui. Il l'a porté jusqu'à la fin de sa vie, ce drame. Il n'en parlait qu'avec émotion et colère, mais en même temps, il comprenait que des gens aient pu ne pas complètement partager ce sentiment. Donc il a besoin de rendre compte de tous ces itinéraires diversifiés,
D'où venait-il? Sa famille est très intéressante.
Oui, il est originaire de la Nièvre. Et on verra que c'est un provincial et c'est pas négligeable dans la façon dont le dictionnaire sera mené. C'est-à-dire qu'il voudra toujours rendre sa part à la province. Et il est fils d'instituteur. Son grand-père était un sabotier avec des idées libertaires. Un sabotier qui employait quelques personnes et qui faisait lire la presse libertaire par les compagnons qui l'entouraient. Son père a été à la fois, lui aussi, attiré à la fois par les idées libertaires et par le socialisme. Et Donc il était porteur.
Ils étaient très républicains, tous ces gens. Il y avait une tradition très républicaine.
Avec un sentiment très républicain. Son père était franc-maçon. Donc c'était un signe d'attachement à des idées républicaines très, très fortes. Et il a toujours été très attaché à l'image de cette famille, de cette famille provinciale.
Oui, d'ailleurs, il avait une maison à Pouilly-sur-Loire.
Que Madame Bétron, son épouse, a toujours conservée.
Oui, et où d'ailleurs il a rédigé une grande partie des notices du dictionnaire. Il a beaucoup travaillé là-bas.
Oui, parce qu'il partait tous les ans, 3 mois ou 4 mois à Pouilly, mais pour travailler.
Oui.
Pour travailler. Il n'arrêtait pas de travailler. On le comprend, quand on mène une œuvre comme celle-là, dans le fond,
il faut s'en occuper,
puis on y trouve des satisfactions.
C'est sûr.
Et alors, il s'arrêtait 8 jours par an.
Oui. Alors, vous avez dit qu'il était atypique sur le plan politique et aussi atypique sur le plan universitaire. Comment ?
Oui, parce que Jean Métron a fait une licence, donc il avait une formation universitaire, mais ensuite il était rentré dans l'enseignement primaire, comme l'ont fait beaucoup de gens à l'époque pour rester en région parisienne. C'était plus facile d'avoir un poste d'enseignant en région parisienne. Et quand il a soutenu sa thèse d'État en 1950, il était encore instituteur. Il est rentré quelques années après à l'université, et à l'université, il a pas vu sa place être reconnue, puisqu'il n'a jamais pu accéder à une chaire.
Un homme comme Pierre Renouvin, dont il faut rappeler qu'il était un grand maître de la Sorbonne à ce moment-là, a bien défendu Jean Métron. Après, la brousse, c'est beaucoup aussi allié à Jean Métron, mais Renouvin, quand même,
très
important.
Oui, mais on peut mesurer le contraste. Une époque comme la nôtre, je crois que Jean Métron ferait sa place.
Sans problème.
Il a peut-être un petit peu eu des difficultés à rentrer dans ce milieu, mais ça lui a donné cette particularité. Ça lui a donné d'abord l'envie de réaliser à fond une œuvre. Et dans le fond, il a dédié la dernière période. Il avait marqué dans son texte qu'il devait cette dernière période aux ultras de l'université, qui l'ayant empêché d'assurer son enseignement, lui ont permis de travailler beaucoup plus. Donc il avait cet humour.
Il avait aussi quand même une petite amertume de temps en temps. Il trouvait quand même qu'on aurait pu faire le geste
final. Une amertume qui ne l'empêchait pas d'agir.
Pas du tout.
Et qui le mettait d'ailleurs très très à l'aise avec des gens venant de milieux différents. Et dans le contact avec les collaborateurs, il était prêt à saisir les compétences très diversifiées des gens. Et c'est extrêmement important dans une œuvre collective.
Oui. Alors, il a commencé par sa thèse. Et quelle était sa thèse ?
Alors, il a commencé par une thèse sur l'histoire du mouvement anarchiste en France, qui est devenue une thèse tout à fait classique, puisqu'elle est rééditée. Elle a été rééditée par La Découverte. Maintenant, elle est rééditée. Elle a été rééditée une première fois par Sudel, 2 fois par La Découverte, et maintenant par Gallimard, dans la collection Telle. Donc, c'est devenu une thèse classique parce que justement Jean Métron avait tant de scrupules à l'écrire et il voulait absolument qu'elle s'appuie sur des documents, sur une lecture exhaustive de la presse, sur des documents d'archives très précis. Il ne se permettait pas d'hypothèses aventureuses. Tout ça était solidement bâti, incontestable, et dans le fond c'était quand même un pan considérable de l'histoire du mouvement ouvrier français.
Oui, surtout quand on connaît la tradition libertaire du syndicalisme révolutionnaire.
Il était attaché au mouvement libertaire jusqu'en 14. Au-delà de 1914, il pensait que
c'était moins intéressant.
C'était une histoire qui devait être écrite, mais qui ne paraissait pas aussi fondamentale. Mais donc il a consacré pour l'essentiel ses articles à cette période d'avant 1914.
Oui. Et cette thèse, il la soutient dans les années 50.
Il la soutient en 1950.
Très exactement, 1950. Oui. Alors, le dictionnaire qui nous occupe aujourd'hui, pourquoi et comment ? D'abord, comment est-ce que Métron a pris cette décision de se lancer dans une folie. Justinien Raymond, qui est un des collaborateurs du dictionnaire, dit que c'est une folie, vouloir faire ça. Savez-vous comment ça a commencé ?
Oui. La première constatation, c'est qu'il n'y avait absolument aucun ouvrage de référence, et comme il avait le sens de la précision, il aurait aimé que ces ouvrages de référence existent. Deuxièmement, il voulait doter l'histoire ouvrière d'outils, et ça lui paraissait un des outils essentiels. Mais surtout, ça n'explique pas la forme qu'il a donnée au dictionnaire, puisqu'il aurait pu faire une œuvre de quelques milliers de biographies de dirigeants déjà connus.
C'est ça, on aurait pu reprendre les noms classiques, et puis
je suis sûr que l'œuvre aurait été appréciée, elle figurerait dans le rayonnage des bibliothèques, mais nous ne serions pas là pour en parler.
Il n'y aurait pas 43 volumes.
Voilà. Voilà. Donc il a eu l'idée de créer tout à fait autre chose parce qu'il avait la passion des militants dans leur multitude. Et très vite, il s'est dit, mais finalement, entre deux communards, pourquoi choisir ? Pourquoi choisir entre deux fusillés ? Pourquoi choisir entre deux déportés ? Et prenons-les le plus largement possible.
Dès est-ce qu'il n'y avait pas aussi une option, j'allais dire, quasiment politique, si l'on songe à Fils du Peuple, hein, de Maurice Thorez, qui est le héros, le culte du chef? Est-ce qu'il n'y avait pas justement la volonté de montrer les obscurs, les anonymes, les sans-grades? Est-ce qu'il n'y avait pas
oui,
ça?
Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est une œuvre qui est produite dans une période, les années 50,
de guerre froide,
d'affrontements idéologiques, de falsifications de l'histoire, de textes oubliés, de photos truquées,
oui,
de
noms, retire les visages,
de noms qui disparaissent, etc. Et alors ça, il réagissait mais violemment, viscéralement contre ça, parce qu'il se sentait toujours concerné. Il se sentait directement concerné par ces choses-là. Et il voulait alors donc donner une histoire qui soit une histoire totale, authentique, lui paraissait important. Et puis pour lui, en effet, l'histoire du mouvement ouvrier, elle était faite aussi bien en province qu'à Paris. Elle était faite aussi bien dans les communes que dans les appareils politiques. Elle était faite par des gens qui avaient été oubliés, comme par des gens qui avaient laissé une certaine notoriété. À la limite, les gens qui avaient une notoriété l'intéressaient moins. Et il disait, bon, dans le fond, on pourra toujours travailler sur la biographie d'un Maurice Thorez, il y aura des ouvrages, on reviendra constamment. La biographie d'un petit dirigeant de syndicat des bûcherons dans le Cher, eh bien, il n'y a que moi qui pourrait lui rendre place.
Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs, j'allais dire, la saveur du dictionnaire, parce que le dictionnaire, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, le feuilleter. Et je trouve même que c'est tout à fait... On peut le lire, évidemment, on ne va pas lire les 43 volumes, mais quiconque, pour une période, se plonge dans tel ou tel volume, en lisant des notices, perçoit quelque chose. Il y a un effet de forêt, un petit peu, dans ces différentes notices. Donc je crois que c'est très important. Alors, d'autre part, il y a aussi, vous le disiez tout à l'heure, le choix de, pas seulement Paris, mais la province. Ça me paraît important aussi.
Oui, c'est que ce mouvement ouvrier se ramifie géographiquement, se ramifie dans les professions, se ramifie dans les différentes sensibilités, et finalement, le dictionnaire est pour l'essentiel un dictionnaire provincial. Son apport vient des départements.
Absolument. Et on voit les réseaux comme ça, on voit les relations entre les gens, on voit que le mouvement ouvrier n'était pas uniquement Paris, Lyon, mais qu'il y avait des gens perdus complètement.
On voit les mobilités.
Oui, à Tarbes.
On voit les mobilités, c'est certainement la grande chance du dictionnaire, c'est que n'ayant pas fractionné entre les militants de tel courant ou les militants de tel type professionnel, on s'aperçoit que finalement, un militant, finalement peut-être le militant le plus représentatif d'une période, il a pu avoir différentes appartenances politiques, il a pu avoir une évolution. Il y a des lignes conductrices dans cette évolution. Il a pu œuvrer en province et puis ensuite à Paris et puis retourner en province.
Changer de pion aussi.
Ces mobilités les plus diverses, le dictionnaire peut en rendre compte dans une grande complexité.
Absolument.
Il est certain qu'il n'est pas facile de trouver dans le dictionnaire que les gros fils conducteurs, et dans le fond pourquoi, c'est des fois des hypothèses secondaires qui peuvent être plus fructueuses. Et puis c'est en effet un plaisir de découverte qui est presque une source d'inspiration, qui est déjà utilisée d'ailleurs sur le plan littéraire.
Oui. Tout à l'heure, on viendra au problème des utilisations, mais c'est vrai qu'il y a des utilisations tout à fait diverses. Alors, pour réaliser cette œuvre énorme, Claude Pénetier, il y a combien au total de notices dans ces 43 volumes?
Alors donc, au total, 110 000 notices.
110 000 notices, qui dit mieux?
Est-ce qu'il en fait? Oui, c'est d'ailleurs le plus grand dictionnaire biographique en langue française.
Oui, absolument.
Et au monde, je crois aussi. Je crois qu'il n'existe pas d'équivalent dans le monde.
Je ne connais pas.
Pas en Allemagne, que je sache.
Oui, puisque vous parlez.
Pour ce qui concerne le mouvement ouvrier, mais là je dis en général, c'est-à-dire qu'il y a le plus grand dictionnaire, quel que soit le domaine. Celui qui arrive juste après, c'est le dictionnaire de biographie canadienne, qui est un dictionnaire en 13 volumes, mais 13 volumes beaucoup plus épais que cela, et qui a un nombre de signes un petit peu moins important. Enfin, je reviens d'ailleurs d'une discussion avec ses collègues canadiens, qui ont beaucoup d'admiration pour le métron. Je pense qu'il existe le dictionnaire de biographie nationale allemande est plus important.
Vous le connaissez, Gilbert Badia, bien sûr.
Oui, mais enfin, est-ce qu'il va autant dans la province et dans la complexité de cette époque? Je ne crois pas.
Non.
Voilà.
Non.
C'est ça qui me paraît une des caractéristiques essentielles.
Dans ce sens-là, c'est une œuvre unique.
Unique et tout à fait révélatrice, me semble-t-il, de cette époque. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait la même complexité, le même provincialisme, sans donner rien de péjoratif à ce terme? Je ne suis pas sûr. Je crois que le mouvement ouvrier a changé aussi de nature, mais ça, c'est une autre question.
Bien sûr. Ce dictionnaire témoigne à la fois sur les gens dont il parle et sur les gens qui l'ont fait. Ça, je crois que c'est en effet tout à fait...
Et sur l'époque.
Et sur l'époque, tout à fait important. Alors, pour réaliser cette œuvre donc considérable, comment est-ce que Métron s'y est pris, hein? Lui qui est d'abord instituteur, ensuite à l'université, qui n'a pas, que je sache, de centre de recherche, tout au moins au début, comment il fait?
Eh bien, il fait plusieurs choix au début qui sont excellents et qui expliquent la continuité du dictionnaire. D'abord, il choisit de s'appuyer sur un réseau de correspondants départementaux. Et c'est ce qui donne la valeur provinciale, c'est ce qui donne la solidité à ce dictionnaire. Ses collaborateurs provinciaux, eh bien, il les prend à la fois parmi les gens qui sont en train de produire des thèses, par exemple, correspondant du Var, Maurice Agulon, pour la première période, ou alors des...
Jean Vidalin, qui a beaucoup collaboré au premier volume. Aussi.
Jean Vidalin, oui. Ou alors des universitaires du second degré, des gens du second degré à la retraite, des anciens syndicalistes qui connaissent bien, qui ont déjà écrit sur la région,
et des
instituteurs qui apportent comme ça leur contribution. Chacun apporte sa contribution sous des formes différentes. Hein. Des gens comme Dautry, par exemple, procurent des biographies qui sont rédigés à la perfection, d'autres donnent des canevas que Jean Métron ou Vidalinck ou d'autres vont mettre en forme.
Et alors qu'est-ce que demande Métron à son réseau de correspondants? Il me semble qu'à un moment donné, il y en a eu jusqu'à 300 de ses correspondants.
Au total, on arrive à presque 400 personnes qui ont collaboré au dictionnaire. Mais tous ne sont pas forcément des correspondants, parce que certains ont pu apporter une contribution pour 2-3 biographies sur lesquelles ils sont des spécialistes. Donc ça fait environ 300 personnes qui ont été des correspondants réguliers. Il leur demande de dépouiller dans leur département ou dans un secteur précis, puisqu'il y a des correspondants qui sont chargés des chansonniers, qui sont chargés du syndicalisme chrétien, et il leur demande de dépouiller dans leur secteur la presse, les archives, surtout la presse, parce que Jean Métron s'est beaucoup chargé du travail d'archives au niveau des archives nationales. Donc trouver cette presse locale, trouver des éléments, des témoignages quand on arrive à des périodes plus proches, et il entretient avec eux des rapports qui sont surtout des rapports épistolaires, mais très intenses, très réguliers, les tenant au courant à chaque fois qu'il reçoit des biographies, commentant les biographies, leur donnant un petit peu des guides.
Combien de lettres devait-il écrire par jour, par moment, hein?
Et il écrivait en effet beaucoup, et la méthode avait l'avantage de laisser des traces, d'être efficace. Et puis le deuxième choix qu'il a été amené à faire, c'est de diviser le dictionnaire en périodes.
Oui.
Et ça, c'est vraiment fondamental, parce que s'il avait voulu traiter le mouvement ouvrier dans son ensemble, il aurait fallu qu'il traite très vite des biographies très, très contemporaine.
Il aurait eu les pires difficultés. Comment est-ce qu'il a divisé la chronologie? Et il y a combien de tomes à peu près par période? Grosso modo, quoi.
Oui, il y a 3 tomes pour la première période, et la première va des origines jusqu'en 1864. Et puis, il y a 6 tomes pour une période qui est très courte, qui est la période Première Internationale Commune de Paris.
Et pourquoi?
On pourrait s'étonner de cette période très courte, mais là, c'est une génération, c'est un temps extrêmement, extrêmement fort. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que figurent dans ces dictionnaires que les gens qui ont été affiliés à la Première Internationale. Ça peut être d'autres formes de rencontres avec le mouvement ouvrier. Mais là, il y a un temps fort, il y avait des archives.
Voilà.
Qui étaient des archives spécifiques à cette période.
Il y avait des spécialistes.
Et donc, son choix par période était tout à fait adapté et lui permit d'aller chaque fois de l'avant. Et je crois que c'est cette deuxième période, d'ailleurs, qui a bien étayé le Métron.
Oui.
Et puis ensuite, il a abordé une période qui allait de 1871 à 1914, la constitution des grandes organisations syndicales, des grandes organisations socialistes, où il s'est d'ailleurs beaucoup appuyé sur les congrès de ces organisations. Et ensuite, nous avons traité la période qui va de 1914 à 1939. C'est celle que je connais plus, parce que j'étais correspondant départemental pour la période précédente. Mais c'est celle que nous avons menée.
Oui, ça ne peut pas être facile. Il doit y avoir tellement de sources pour cette période-là.
Voilà, c'était une des difficultés de la période, mais que Jean Métron a menée aussi peut-être avec un esprit plus optimiste. Parce que d'abord, il avait mieux constitué, il avait une équipe autour de lui. Donc il pensait que l'œuvre serait menée à terme.
Ce qui était
fondamental, il était confiant. La période précédente, il l'avait menée avec beaucoup plus de difficultés. C'est une période où il n'arrivait pas à trouver complètement sa place dans l'université. Et donc il avait une grande inquiétude. Il publiait les volumes à rythme.
Oui, les rythmes de parution étaient espacés.
Un volume par an. Et donc il a été optimiste quand il a pu sentir que le rythme pouvait être accéléré, qu'il a eu des correspondants départementaux bien plus nombreux, parce que tout simplement l'histoire ouvrière avait progressé. Oui. L'historiographie avait très largement progressé. Oui.
Elle était devenue, j'allais dire, un champ de recherche à l'université, admis, reconnu. Oui. Alors, est-ce que la conception du militant ne change pas à travers cette période?
Tout à fait, oui. Pour la première période, d'ailleurs, Jean Métron et d'autres prennent bien la précaution de ne pas définir avec trop de précision ce qu'est le militant, puisque c'est une période de constitution du mouvement ouvrier. Et donc, ils s'intéressent aux gens qui ont influé sur la constitution du mouvement ouvrier. Ce ne sont pas donc forcément des militants, ça peut être des gens qui ont produit des textes, qui ont permis aux travailleurs de prendre conscience de leur rôle,
de se fixer les
objectifs.
Beaucoup de chansonniers de l'époque 1835-1848.
Des gens qui...
Des cabaretiers, socialistes, républicains, un meneur de grève. Les notices des premiers volumes sont souvent plus courtes et elles concernent souvent une fulgurance, une irruption d'un militant dans la vie. Tandis que dans les périodes suivantes, on a le sentiment qu'il faut quand même plus de durée.
Quand on arrive à la deuxième période, c'est le militant, c'est un petit peu le combattant aussi, puisque c'est la commune. Donc il y a une notion là qui est déjà presque plus précise, plus nette. Et puis pour la troisième période, il y a la durée, et pour Jean Métron, c'est la participation quand même concrète à la mise en place d'un journal, à la mise en place d'une organisation. Et c'est peut-être sur cette période qu'on entend de temps en temps des réserves en disant la vision est trop organisationnelle. Peut-être pour cette période-là, trop. Non, je ne dirais pas trop, mais elle est un peu organisationnelle dans la mesure où il veut rendre compte de la mise en place de la mise en place de la CGT, de la mise en place du Parti socialiste et SFIO, de la création des différents journaux. Et il n'a pas voulu faire un dictionnaire. Il a voulu maîtriser en 6 volumes et ne pas avoir un dictionnaire de trop grande ampleur.
Oui. Et puis, il a quand même été amené à s'aligner, si l'on peut dire, sur les critères du mouvement ouvrier lui-même, qui, à ce moment-là, privilégie tout de même les organisations. Au fond, les gens que l'on trouve dans le dictionnaire illustrent les mutations du mouvement ouvrier lui-même.
En sens-là, la quatrième période est un petit peu plus de l'avant dans ces critères de sélection, puisque la notion de responsabilité, la notion de durée est retenue, mais qu'elle n'est des gens peuvent avoir eu des responsabilités, et si les responsabilités sont minimes, sont répétitives, ne sont pas originales, etc., on peut ne pas les retenir. On peut, par exemple, ne pas retenir des gens qui sont toute une liste d'administrateurs d'une coopérative. Dans la mesure où on peut penser que un ou deux administrateurs de cette coopérative reflètent bien la sociologie de cette coopérative. Et par contre, le dictionnaire retient des gens qui ont une influence durable, sans responsabilité précise. Et alors là, on y reviendra peut-être pour les femmes, par exemple. On y reviendra pour les intellectuels. Le dictionnaire peut donc capter assez largement des formes d'activité qui sont des formes de militantisme.
Quelle est la place des intellectuels qui ont été très liés au mouvement ouvrier sans être ouvriers eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont présents dans les dictionnaires? Ils sont très présents.
C'est de l'ordre de 300-350 biographies importantes, puisque naturellement, quand on commence à prendre la biographie de quelqu'un qui a un itinéraire intellectuel, il faut en rendre compte assez largement. Il faut citer les collaborations, il faut citer les ouvrages, il faut décrire les études, les productions, l'évolution des idées. Et ça remplirait, si on séparait les biographies intellectuelles, on pourrait remplir un ou deux volumes très facilement.
Est-ce qu'il y a eu de vos collaborateurs qui s'occupaient particulièrement de ce secteur, Nicole Racine, par exemple.
C'est Nicole Racine qui a suivi, elle a rédigé près de 130 grandes biographies. Mais il faut bien savoir
pour la période de l'entre-deux-guerres.
Mais chaque chaque biographie de Nicole Racine est l'équivalent d'un article. C'est-à-dire, un article d'une quinzaine ou d'une vingtaine de pages.
Mais vous avez pu tout publier? Vous avez pu tout publier?
Oui. L'ensemble de ces notices figure, et c'est un apport à l'histoire des intellectuels qui est extrêmement important.
Et comment est-ce que les notices sont composées? Est-ce qu'il y avait des consignes de ce point de vue-là?
Alors, la consigne était d'abord d'avoir un chapeau qui permettait de repérer les états civils et les grandes responsabilités. Et puis ensuite, de mener la biographie pour l'essentiel de façon chronologique. Bon, le choix pouvait quand même légèrement différer, mais il fallait veiller à ce que chaque période soit bien présente, que les notices soient toujours écrites de façon un petit peu distante, toujours précise, avec le moins de qualificatifs possible, pour éviter tout risque d'agiographie ou de dénigrement. Il fallait qu'elle soit écrite au passé. Et ça, c'est pas si négligeable que ça, parce que vous connaissez le livre de Rancière, son dernier livre où il commente le temps de l'histoire. Le fait d'écrire au passé donne aux biographies du dictionnaire cette distance qui est absolument nécessaire.
C'est une consigne, il fallait écrire au passé.
C'est une consigne. Les biographies du dictionnaire doivent être écrites au passé, sinon si les gens ne les écrivent pas au passé, on les réécrit passé et on les resoumet. On est amené d'ailleurs beaucoup, c'est normal dans une œuvre collective comme ça, rarement les grandes biographies qui sont demandées à des spécialistes, où on peut discuter tel point ou tel point, mais pour beaucoup de choses, on est amené à raccourcir beaucoup, parce que les biographies doivent quand même rentrer dans les normes, et donc à modifier comme ça les aspects qui sont des aspects stylistiques.
Alors pour chaque biographie, on remarque qu'il y a un petit rez-de-chaussée qui donne les sources. Voilà, ça, c'est très, très précieux pour l'historien.
Qui donne les œuvres, éventuellement, si les gens ont une production, et les sources d'archives, sources de presse, témoignages, si les témoignages ont été recueillis, de façon la plus précise possible, pour que tout ça serve de guide pour les gens qui seront amenés à faire des recherches.
Oui. Alors, quel usage peut-on faire de ces dictionnaires aujourd'hui? Et est-ce que vous pensez qu'il y a des manques? Par exemple, on a dit, il y a eu un numéro du Mouvement Social qui a été consacré au dictionnaire, et je ne sais plus si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui avait regardé particulièrement les étrangers et les femmes. Hein. Ça, c'est deux exemples. Pour les femmes, par exemple, il n'y en a pas tellement, hein, c'est 5%.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez
Sur les 5%, c'est déjà important. C'est déjà 5000 biographies qui figurent dans l'ensemble de la collection du dictionnaire.
C'est vrai. Et non des moindres.
Et non des moindres.
Mais oui, on est surprise par le nombre de féministes dans le dictionnaire.
À vous trouver.
Ah oui. Oui. Au début de ma recherche, ça m'a vraiment aidée d'utiliser le dictionnaire. Je crois que c'est lié à notre préjugé sur le féminisme bourgeois. En fait, beaucoup de militantes ont eu un double engagement et donc elles sont présentes dans le dictionnaire. Bien que certaines notices négligent un peu leurs activités féministes.
Oui, il les prend surtout sous l'angle du mouvement ouvrier davantage. Oui.
Mais ce problème des femmes a été posé également, ou nous a été posé, pour le dictionnaire consacré au mouvement ouvrier allemand.
Ah, j'aimerais bien que, puisque l'on parle de ce dictionnaire, Gilbert Badia, donc, à l'imitation, ou dans la lignée plus exactement, du dictionnaire du mouvement ouvrier français, il y a eu des entreprises étrangères.
Oui. La première était l'entreprise Autriche, avec Georges Haupt, qui a été publié en 1970. Et il y a eu depuis 5 pays qui ont été couverts, le Japon, la Grande-Bretagne, la Chine. Et puis le dernier, c'est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier allemand qui a été dirigé par Jacques Droz, auquel Gilbert Badia a participé.
Oui, mais c'est Jacques Droz qui a été le maître d'œuvre, c'est lui qui nous a réunis. Et alors, ça présente beaucoup d'analogies avec le Méfron et beaucoup de différences. L'analogie, c'est que le type de notice, la constitution de la notice est identique. C'est-à-dire qu'au début, il y a un chapeau. Ensuite, on raconte un peu la vie. Et à la fin, il y a une bibliographie. Mais c'est tout à fait différent parce que le Métron essaie d'être exhaustif, si je puis dire, et s'intéresser surtout aux inconnus, tandis que nous, nous nous intéressons que aux connus. Et nous avons fait, étant donné que nous n'avions qu'un volume à notre disposition.
Un seul volume.
Oui, un seul volume. Or, vous voyez l'importance du mouvement ouvrier allemand, que Jacques Droz commence tout à fait au début du mouvement ouvrier, bien avant 48. Et par conséquent, ça supposait des choix terribles. Et on peut à tout moment nous reprocher d'avoir omis tel ou tel militant. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'on a été obligé, on était obligé de faire une censure énorme. Oui. Le deuxième problème qui s'est posé, celui des femmes. On nous a dit, il n'y a pas assez de femmes. Le problème, c'est que, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans les mouvements ouvriers allemands? Il n'y avait pas tellement qui accédaient à une certaine notoriété. Oui. Dans la social-démocratie allemande, vous savez, vous les comptez sur les doigts de la main gauche, celles qui participent au congrès et qui prennent la parole au congrès. Beaucoup
oui,
y viennent.
Ou une Clara Zetkin.
Oui, ou une Louise Zitz, oui. Ou une Rosa Luxembourg. Combien d'inconnus et qui, donc, n'ont pas... on n'a pas jugé qu'elles pouvaient avoir leur place dans le dictionnaire. Mais ça nous a été reproché. De même, tout à l'heure, j'entendais avec étonnement des notices de 20 pages. Ça, j'ai été...
pages dictylographiées.
Oui.
Ce ne sont pas 20 pages dictionnaires.
On nous a reproché, on m'a reproché en particulier, mais ça, c'est une question de style personnel, d'avoir consacré trop peu de lignes, de signes à Rosa Luxembourg, par exemple. Mais ça... Il n'y avait pas de consigne sur la longueur que devait avoir une notice. Les uns sont prolixes et d'autres, c'est mon cas, plus concis.
Oui, Claude Pentier.
Oui, les femmes dans le dictionnaire français, c'est 5% des notices. Et 5% des notices, c'est un petit peu le reflet de ce qu'est la place des femmes dans le mouvement ouvrier numériquement. Le dictionnaire prête une attention particulière et essaye de développer, dans la mesure où il le peut, ses notices. Donc, par le rapport, on dépasse des fois cet aspect qui peut paraître réduit, en nombre. Il y a des biographies dans le dictionnaire importantes de syndicalistes chrétiennes, par exemple. Mmh. Un travail très approfondi sur les syndicalistes chrétiennes. Mais là, nous sommes un petit peu dépendants de l'évolution de l'historiographie.
Oui,
depuis 4-5 ans, en effet, ces travaux sont
beaucoup progressés.
Oui, il y a une chercheuse qui s'appelle Jocelyne Chabot qui suit particulièrement ces notices. Il y a des notices de femmes syndicalistes CGTU et communistes, qui sont des biographies tout à fait intéressantes. Et puis, il y a les biographies de femmes... qui sont à la liaison entre le mouvement ouvrier et le féminisme. Et là, c'est un petit peu fonction des sources. Madeleine Pelletier, dont on parlera tout à l'heure, était déjà présente, par exemple, dans la troisième partie du dictionnaire. Elle a été reprise dans la quatrième partie. Et c'est d'ailleurs à partir de cette connaissance que l'idée de faire une biographie, de publier une biographie, du moins, est venue.
L'Allemagne, toutefois, elle leur reproche de n'avoir pas consacré assez de notices aux femmes, mais quelquefois justifié. Par exemple, je le feuilletais récemment, le dictionnaire, et j'ai vu que Lily Brown ne figure pas.
Vous n'avez pas
figuré. Non, attendez. Si, elle figure. Elle figure, mais sous la rubrique Heinrich Braun, son mari.
Oh.
Et dans cette rubrique, il est question justement de son œuvre, de ses écrits, des mémoires d'une socialiste, etc.
Oui.
Et l'autre problème qui nous a été posé, c'est le même, alors celui-là que le mettront, c'est quel nombre et quelle qualité d'intellectuel peut-on admettre, ou étant donné la place, toujours, étant donné les limites de place. Et là, je crois qu'il y a des choix qui peuvent être très discutés. Par exemple, il y a un certain nombre d'écrivains connus, bien entendu, de graphistes, de peintres, etc. Mais les architectes, par exemple du Bauhaus, qui ont tout de même une grande liaison avec le mouvement ouvrier, en ce sens qu'ils ont cherché à construire des immeubles tout à fait d'un style tout à fait nouveau et d'une conception tout à fait nouvelle pour les ouvriers, des cités ouvrières, et ils ne figurent pas. Ou encore le cinéma. Par exemple, Fritz Lang, qui a écrit Métropolis, qui a tourné Métropolis, et d'autres n'y figurent pas non plus. Mais là, c'est des
À la grande différence du dictionnaire français.
Oui, mais
dans
ça,
le dictionnaire français, bien au contraire. Le Corbusier a une notice, c'est une notice assez longue.
Mais
j'ai un gros travail sur les architectes.
Un
travail très important sur les architectes, sur les urbanistes.
Mais là, évidemment, nous étions pris à la gorge, parce que, étant donné l'importance du mouvement ouvrier allemand, le mouvement ouvrier allemand, ça aurait été au détriment de toute une série de personnalités. Et c'est un choix
qui a été fait,
mais qui était presque tragique, j'allais dire, qui nous fendait le cœur à chaque instant, mais il fallait le faire. Nous n'avions pas la possibilité de dépasser les 1000 pages.
Espérons que un dictionnaire plus large sera fait un jour par les Allemands eux-mêmes. Ce serait très bien.
Dans l'état actuel des choses, si je puis ajouter une chose, c'est que je trouve que c'est un ouvrage extrêmement utile pour le chercheur.
Oui. Ah oui, oui.
Il
oui,
m'est arrivé oui, à moi-même.
Un instrument de travail.
Voilà, un instrument de travail.
Faut le dire.
À tout moment, j'ai eu l'occasion moi-même, dans mes travaux, de faire appel aux notices que je n'avais pas rédigées du dictionnaire.
Oui, autrement dit, toutes les bibliothèques universitaires, toutes les bibliothèques des grandes municipalités, villes doivent avoir le dictionnaire Métron.
Oui, j'espère doivent avoir le Métron et les volumes Métron internationaux.
Pour conclure, Claude Pentier, quel est, à votre avis, au fond, le sens de ce dictionnaire ? Parce que, voilà, il est fini, et ça représente 30 ans de travail, et voilà, c'est vie, hein, c'est 100 000 et quelques vies. Quel est le sens de cela au moment où la classe ouvrière n'est plus notre avenir, où le mouvement ouvrier probablement non plus et alors, quel sens ça a tout cela, à votre avis ?
Eh bien, c'est, pour Jean Métron, c'était vraiment dire, voilà, le mouvement ouvrier, c'est ça. Dans le fond, le mouvement ouvrier se rassemble là. Il y avait dans sa volonté à la fois une volonté de faire une volonté scientifique et une volonté qui était un petit peu de dire, à partir du moment où je cite, je rends quand même hommage, quelle que soit la forme sur laquelle je cite. Et on pourrait presque employer, mais en le critiquant immédiatement, parce que dès qu'on veut faire des raccourcis, aussitôt, ils sont réducteurs par rapport à ce qu'ils mettront, la notion de livre d'or. Moi, je suis en train de travailler là pour l'instant sur le passage du fichier, le fichier de police, au livre d'or que peut être le dictionnaire, le fichier de police comme risque de mort pour le militant, au livre d'or comme chance de survie pour celui qui a disparu. Et aussitôt, il faut le dépasser, il faut la dépasser cette notion de livre d'or, parce que le déserteur ne figure pas dans le livre d'or quand c'est le livre d'or des combattants de la Première Guerre mondiale. Dans le dictionnaire, le déserteur figure. Le déserteur, qu'on l'appelle le déserteur, qu'on l'appelle le renégat, qu'on s'appelle celui qui a changé en gardant des valeurs du mouvement ouvrier, en les abandonnant, dans tous les cas, il a place parce qu'il est passé par ce chemin qui est commun. Et son sens, c'est peut-être de montrer que finalement, ce mouvement ouvrier, c'est pas l'image simpliste qu'on s'en fait parfois. Oui, oui. Ce n'est pas le métallurgiste de Boulogne-Billancourt plus le mineur du Nord. C'est quelque chose de beaucoup plus diversifié, qui passe par l'artisanat, qui passe par les petits employés, qui passe par l'institutrice, qui passe par le marin pêcheur, etc. Et que sous d'autres formes, même si la classe ouvrière, dans son sens traditionnel, n'est plus porteuse d'avenir, n'est plus la seule porteuse d'avenir, eh bien, il y a une série d'autres catégories qui sont proches de cette classe ouvrière, qui ont hérité de modes d'action de la classe ouvrière. Le syndicalisme est maintenant une forme assez largement répandue. La volonté d'égalité dans les salaires, dans la façon d'être traité socialement, l'accès très large au logement. Tout ça, ce sont des combats qui ont été des combats portés de façon différente à chaque moment par le mouvement ouvrier et qui sont repris assez largement par la société. En ce sens-là, même si le mouvement ouvrier au 21e siècle ne sera pas ce qu'il était au 20e siècle, il y a bien des aspects, il y a bien des valeurs,
il y a un leg.
Et puis ce leg, il est aussi le fait que nous venons les uns et les autres parfois d'autres choses, que nous avons des racines. Nous avons, eh bien, je crois que ces 100 000 vies qui sont là, eh bien, elles intéressent beaucoup de gens, elles leur permettent de se sentir peut-être des fois plus à l'aise dans une région, dans une corporation. Enfin, il me semble que tout ça donne sens, donne sens et donne plaisir, parce que l'histoire, c'est aussi fait pour donner une satisfaction.
Oui. Est-ce que justement, ça n'est pas une sorte de terreau dans lequel... Tu parlais des racines. Je suis très frappé qu'en France, encore, la province joue un rôle, en tout cas joue un rôle comme antécédent. Toute une série de figures parisiennes s'y ont cherché. Je suis persuadé qu'elles ont des liens très étroits avec la province. Et je pense que là, elles ont des liens aussi beaucoup avec le Métron.
Oui,
très indirectement, mais par leurs grands-parents.
Oui, tout à fait.
Le dictionnaire, donc, un instrument de travail pour nous aujourd'hui, un formidable lieu de mémoire, comme on dit maintenant en suivant Pierre Nora. Il faut dire d'ailleurs que le Métron est inclus dans les lieux de mémoire chez Pierre Nora.
Par 6 belles pages.
Et d'autre part aussi, un lieu de mémoire des gens qui l'ont fait. Ça, je crois que c'est très important et que, du point de vue historiographique, ces gens qui ont été avec Métron, qui l'ont accompagné, qui ont fait ce travail, témoignent aussi sur eux-mêmes et sur une époque où, au fond, leur énergie militante, qui était peut-être un peu en panne pour des raisons complexes, politiques et autres, eh bien, ils l'ont transférée dans le travail scientifique pour construire cet objet. Et ils ont bien fait, je crois. La seconde séquence de notre émission va être consacrée cette fois-ci à des biographies, ce qui est une autre manière de faire leur place à ces militants. Vous avez d'ailleurs fondé, Claude Pentier, un petit peu dans la foulée du dictionnaire biographique, une collection aux éditions ouvrières. Comment s'appelle cette collection ?
Elle s'appelle « La part des hommes ». C'est une collection qui a été fondée à la demande des éditions ouvrières qui avaient des sollicitations importantes. On leur disait, mais vous avez un dictionnaire biographique qui est reconnu et vous ne publiez pas de biographies qui sont recherchées par un public cultivé, militant, divers, qui sont recherchées par la bibliothèque municipale. Donc ils m'ont demandé de faire une collection de biographies dont vous avez dit tout à l'heure que c'était des biographies de type classique, mais que nous envisageons de faire évoluer peut-être vers des formes moins classiques, éventuellement biographies parallèles. Mais pour l'instant, 7 titres sont parus. Sur ces 7 titres, un est déjà connu des lecteurs, des auditeurs des Lundis de l'Histoire, puisque Varlin a été présenté. Mais il y a eu donc Gracchus Babeuf, Lisa Garay, Jules Gued, mais aussi des souvenirs de Clément Duval, qui était un bannière anarchiste. Et, et puis avec Clara Zetkin et Madeleine Pelletier, nous arrivons à 7 volumes. Et il y en aura un autre bientôt qui sera différent. On essaye chaque fois de surprendre
qui sera la
biographie de Léon Sédov, le fils de Trotsky, qui a été assassiné à Paris en 1937 et dont on connaît maintenant les circonstances précises de l'assassinat.
Avec des sources nouvelles.
Avec des sources nouvelles.
Oui. Alors donc, là nous avons choisi les deux dernières biographies sur deux femmes, et puisqu'on a dit tout à l'heure que les femmes n'avaient peut-être pas toujours tout de même la place qu'elles auraient pu avoir, nous allons donc parler d'elles, Clara Zetkin, Madeleine Pelletier. Ces deux femmes ont tout de même été oubliées, me semble-t-il. Madeleine Pelletier, on essaie maintenant de la faire renaître, puisque à la fois il y a cette biographie, il y a le colloque Christine Barre que vous avez dirigé. Mais est-ce qu'elle vous paraît tellement connue en France, Madeleine Pelletier ?
Non, elle est très très peu connue et redécouverte depuis peu. Alors là, il y a une accélération tout d'un coup, une biographie en anglais, une biographie en français, un colloque qui a attiré pas mal de
Linda
monde.
Félicia Gordon, oui.
Une biographie chez Politipress, parue en 90.
Oui.
Voilà, donc elle était très étonnée que les Français ne s'intéressent pas davantage à cette féministe exceptionnelle. Et je crois que si elle a été oubliée, c'est parce qu'elle était très marginale, hors des organisations, gauchiste à la fin de sa vie. Et puis elle est morte en 39, ce qui est quand même
c'est pas un mauvais moment pour mourir.
Décembre 39.
Oui. Autant plus qu'elle est morte dans des conditions...
elle est morte dans un asile complètement oublié de tous et de toutes.
Coupée de tous.
Et pour Clara Zetkin, c'est différent, parce qu'elle a été très connue, beaucoup plus connue que Madeleine Pelletier. Et à l'époque, elle était sans doute la femme, la socialiste, mais aussi la féministe, en un sens, ou en tout cas la femme qui luttait pour l'égalité entre hommes et femmes, la plus connue dans toute l'Europe.
Dans toute l'Europe, allez jusque-là.
Ah oui, j'en suis sûr, j'en suis convaincu.
Oui.
Dans toute l'Europe, au moins jusqu'en 1918, et il suffit de lire la façon dont elle est accueillie au Congrès de Tours par Pierre Sémard, la façon, les éloges qu'il prononce.
C'est un petit peu le style de l'époque.
C'est vrai, mais c'est extraordinaire, ça dépasse quand même. Vous l'avez lu, vous avez vu, c'est assez extraordinaire.
Oui.
Et puis, il y a eu la guerre.
Oui.
La guerre, le Troisième Reich ont été une coupure énorme pour le souvenir de tout ce qui était allemand. Pas seulement Clara Zetkin d'ailleurs, Brecht par exemple, a été redécouvert en France en 1955. Il avait une notoriété européenne avec son opéra de Katsou avant, dont on avait fait un film en France. Et je crois que c'est parallèle.
C'est parallèle.
Et il y a eu une... Vraiment, et actuellement, elle est très peu connue, sauf des amis du métron, oui. Sauf des militants d'un certain âge qui ont eu l'occasion de justement de connaître son prestige et ses activités avant 1939 ou 33 plutôt.
Oui, oui. Oui.
L'histoire du mouvement ouvrier a toujours conservé la mémoire de Clara Zetkin et on ne peut pas en dire autant de Madeleine Pelletier qui a pourtant appartenu à l'instance dirigeante de la SFIO avant 1914. Et donc on a dû attendre les travaux de Charles Sauerwein qui publie en 1978 les femmes et le socialisme pour découvrir son rôle à la fois comme féministe très critique vis-à-vis des socialistes et puis comme révolutionnaire.
Oui, et le livre de Claude Mignon qui a publié chez Syros, il faut le rappeler.
La même année, elle a republié L'éducation féministe des filles. Voilà.
Oui, oui, oui.
Alors, tandis qu'en France, nous n'avons publié qu'il y a une dizaine d'années, sous le titre Bataille pour les femmes, toute une série de textes de Clara Zetkin. L'ouvrage est épuisé d'ailleurs, oui, il a été. Mais ça n'a pas suffi, si vous voulez, pour la faire reconnaître de nouveau la notoriété qu'elle avait auparavant.
Oui, et alors qu'est-ce qui vous a intéressé de consacrer maintenant une biographie à Clara Zetkin?
C'est une longue histoire que j'abrégerai. J'ai commencé par m'intéresser au spartakisme. Le mot spartakisme avait en France une sorte d'aura extraordinaire. Et à ce moment-là, Nora qui dirigeait Archives, m'avait demandé, la collection Archives chez Julliard, qui ensuite chez Gallimard, m'avait demandé d'écrire un livre sur un petit fascicule sur les spartakistes. Les spartakistes, ce sont les révolutionnaires allemands qui se sont séparés en 1914 de la social-démocratie parce qu'ils condamnaient son adhésion à la thèse gouvernementale de la guerre défensive et ils qualifiaient cette guerre de guerre impérialiste et ils ont milité contre la social-démocratie majoritaire, contre la guerre. Mais ils sont restés minoritaires, mais en ayant parmi eux des personnalités connues comme Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, et qui ont été assassinés, comme vous le savez, en janvier 19 à Berlin.
Alors, vous avez trouvé pour cette biographie des sources
j'ai eu la
nouvelles
chance, oui, j'ai eu
qui
la
vous
chance.
Ont peut-être poussé aussi à faire cette biographie.
Non, je l'avais commencé avant,
oui.
Mais j'ai eu la chance que les archives de RDA se soient ouvertes en 1990 et que j'ai pu ainsi consulter une correspondance très volumineuse. Clara écrivait énormément et tout à fait inédite et qui était interdite même, puisque les dossiers que j'ai consultés portent la mention confidentielle ou secret. Et donc, et cela m'a permis de voir des aspects de Clara que j'ignorais totalement. Par exemple, son non-orthodoxie, son opposition à Staline, et d'une façon générale, sa position vis-à-vis des dirigeants du KPD, du Parti communiste allemand, dans l'entre-deux-guerres.
Oui.
Et tout ça, c'est tout à fait nouveau, enfin, pour moi, et je crois, d'une façon générale, puisque les chercheurs allemands eux-mêmes n'avaient pas du tout accès à cette correspondance.
Voilà, ça c'est un aspect très intéressant de cette biographie, cette découverte de sources privées, qui donne ce côté privé, justement, d'une femme qui hésite plus qu'on ne le croit généralement. On
la voit un petit peu
comme autoritaire.
Mais ça, je crois que c'est faux. Je crois que c'est une vision, en tout cas, j'ai essayé de la corriger. Et puis, j'ai consacré aussi un assez long chapitre à une chose qui est peu connue, à une partie de sa vie qui est peu connue, je crois, son séjour en France. Et
oui,
qui est capital.
Nous allons y revenir.
Qui est capital.
Très, très intéressant, effectivement.
Me semble-t-il.
Pour Madeleine Pelletier, de quelles sources dispose-t-on? Elle a écrit, elle, des écrits autobiographiques.
Oui, un roman autobiographique qui s'appelle La femme vierge, paru en 1933. Et elle a laissé aussi des manuscrits, deux manuscrits autobiographiques, beaucoup de correspondances.
Elle aussi.
Et en fait, elle parle d'elle aussi dans tous ses écrits politiques. En fait, là, on a un cas typique de mélange entre la vie privée et la vie politique.
Elle sépare moins peut-être que Clara Zetkin, le privé et le public.
Oui, parce qu'elle parle, elle part de son expérience de femme, de son enfance, de son initiation précoce. Par son père qui lui révèle trop tôt, d'une manière un peu violente, les choses du sexe. Et voilà, elle part de ça pour élaborer une théorie féministe originale qui présente bien des points communs avec celle de Simone de Beauvoir, en fait, parce qu'elle elle défend un féminisme de l'égalité, elle est foncièrement individualiste, et surtout, elle déconstruit le genre, chose que nous essayons de faire aujourd'hui. Elle le fait en sociologue, en... Oui. En militante. Mais
on va revenir tout à l'heure sur cet aspect de Madeleine Pelletier. Nous allons, plutôt que de suivre les itinéraires de l'une et de l'autre, nous allons les croiser un petit peu. Ça nous permettra d'avoir un dialogue entre vous deux. Et puis, oui,
et là, on voit une bonne application du genre biographique.
Oui.
Parce que c'était vraiment la meilleure façon de les redécouvrir, ces femmes. Il fallait descendre au personnel, dans le cas de Madeleine Pelletier, pas se limiter aux idées, mais voilà. Connaître vraiment la vie personnelle. Et avec Clara Zetkin, on va voir qu'on a découvert des choses avec ce type d'approche.
Voilà, il y a d'autant que la vie personnelle joue un rôle dans son féminisme. Oui. C'est Engels qui parle de la pratique. Eh bien, dans la pratique, elle est plus féministe, je crois, qu'elle ne l'est dans ses écrits, parce qu'elle n'a pas... Non pas qu'elle ne soit pas féministe, mais nous en parlerons tout à l'heure.
Voilà. Alors, Clara Zetkin, 1857-1933. Madeleine Pelletier, 1874-1939. Ça les situe bien dans le temps. Madeleine Pelletier est plus jeune, pas tout à fait 20 ans, mais enfin, guère de moins. De quel milieu viennent ces deux femmes, Clara Zetkin ?
Alors, Clara Zetkin...
Elle s'appelle comment, d'abord, au départ ?
Eisner. Oui, elle a pris le nom de son compagnon. Elle n'était pas mariée avec Ossip Zetkin, qui était un juif révolutionnaire russe à Paris, réfugié en Allemagne, expulsé en raison des lois antisocialistes de Bismarck, réfugiée à Paris. Elle le rejoint à Paris, et c'est à Paris qu'elle a deux enfants de lui.
Les deux seuls qu'elle aura.
Les deux seuls qu'elle aura, oui. Elle est de Leipzig, elle est de Saxe, d'une région qui est à ce moment-là très socialiste déjà. C'est là où sont élus les premiers députés socialistes, Bebel et Liebknecht, Wilhelm, le père. Et c'est là qu'elle fait qu'elle connaît les milieux socialistes.
Oui. Est-ce que ça représentait par rapport à son milieu, une rupture avec son milieu,
Oui et non. Oui et non, parce que sa mère est fille d'un officier de Napoléon, qui s'est arrêté là, et sa mère est très sensible aux idées libérales de 1848, et même aux idées féministes. Mmh. Et sa fille, elle fait des études d'institutrice. Clara Zetkin sera institutrice. Mais parce qu'elle est socialiste.
C'est intéressant, ça, oui.
Oui, parce qu'elle est socialiste, elle se brouille avec sa directrice d'école, pourtant féministe, mais féministe très modérée, et qui admet qu'on soit féministe, mais pas qu'on soit socialiste. Et donc elle se brouille. Et elle se brouille aussi avec ses parents, parce qu'elle fait passer la défense de ses idées et de son idéal avant la recherche d'une place qui aurait permis d'aider matériellement la famille qui était, depuis la mort du père, dans des situations financières difficiles. Elle est donc d'un milieu relativement modeste, et surtout, elle a vu déjà la misère par exemple, des tisserands à domicile, qui est une situation atroce à cette époque.
Oui,
des gens qui travaillent, des familles qui travaillent jour et nuit devant un métier à tisser, qui sont exploités par ceux qui leur donnent
travailler
à la tâche.
Oui, c'est une femme qui donne le sentiment d'être capable de dire non, de rompre. Elle voyage beaucoup. Elle connaît l'exil, vous avez rappelé.
Ah oui, dans sa vie. Alors là,
dans sa vie.
Oui, elle a beaucoup voyagé, elle a connu, je ne sais pas si c'est à cela que fait allusion Sans frontières, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup voyagé, elle a connu l'exil, elle a connu divers pays, elle a milité dans divers milieux.
Oui. 82, 89.
9, oui, 90 même, 8 ans. 8 ans, elle est restée 8 ans à Paris, et elle a connu pratiquement tout le mouvement ouvrier, toutes les personnalités du mouvement ouvrier, à commencer par Paul et Laura Lafargue, la fille de Marx, mais Jules Guedes, j'ai des lettres de Clara Zetkin à Jules Guedes, qu'elle connaissait bien personnellement, Vaillant, Louise Michel, dont elle écrit une petite biographie. Elle a écrit une série de biographies sur les têtes, des figures de proue du mouvement ouvrier français à l'époque.
Elle est assez sociable, par ailleurs, hein, elle a... pas mal d'amis.
Oui, elle est très sociable, mais elle mène surtout une vie de galère, comme on dit aujourd'hui. Ils n'ont pas d'argent, aussi elles n'ont pas d'argent. Ils sont, un matin, je raconte comment ils sont expulsés. avec les deux enfants. Et toute la journée, ils errent dans les rues parce qu'aucun hôtel ne veut les accepter à cause des deux enfants. Donc, elle a connu une vie très difficile à Paris, oui, en même temps. Oui. Je crois que c'est un trait qui l'a marqué et qui lui a permis de s'adresser aux travailleuses allemandes en se faisant comprendre d'elles. Je crois que c'est très important, cette vie très pénible, difficile qu'elle a connue à Paris.
Alors, peut-être peut-on mentionner, parce qu'on n'a pas l'occasion d'en reparler, qu'elle a été mariée deux fois.
Non, elle a été mariée une fois.
Parce que
elle
vivait en union libre, d'abord.
C'est ça. Elle a refusé.
Ses fils sont de cette union.
C'est ça. Elle a même eu des problèmes rentrés en Allemagne, parce que la police lui a dit, comment vous vous appelez Tsetskine, mais vous n'êtes pas Tsetskine. Et vous n'avez pas le droit. Et elle a eu une amende. Et elle a réussi, en 14, à faire... ses fils ont été mobilisés, tous les deux, et ils ont été mobilisés sous le nom de Tsetskine, tout de même. Et elle a gardé ce nom, même quand elle s'est mariée avec un jeune peintre, un peintre plutôt beaucoup plus jeune qu'elle, de 18 ans. Son cadet, Friedrich Zundel, elle n'a pas pris son nom. Elle a gardé son nom de Clara Tsetskine, qui était déjà connue.
Oui, union qui s'est terminée de façon assez triste.
Dramatique pour elle. Ah oui, qui pour elle a été un déchirement total pendant la guerre pour des raisons que je n'ai pas pu élucider exactement. Son mari s'est séparé peu à peu d'elle et l'a quittée et a épousé ensuite la fille de Robert Bosch, l'industriel allemand connu par l'invention de la bougie d'automobile, et qui est encore un nom connu.
Alors, voilà un petit peu pour le côté vie privée. Madeleine Pelletier, comment la voyons-nous ?
Avant tout, c'est une célibataire, donc fière de s'appeler Mademoiselle, et une doctoresse, et elle se fait généralement appeler la doctoresse Pelletier.
Elle est très fière de ça.
Oui, très, très fière. Elle vient d'un milieu très modeste. Elle est née à Paris, dans le 2e arrondissement, et sa mère vend des fruits et légumes. Son père est gravement handicapé. Et elle, sa mère la hait, la déteste et elle en souffre énormément. Donc elle va avoir une adolescence fugueuse. Elle fréquente les anarchistes à cette époque et c'est comme ça qu'elle va connaître la vie militante et prendre surtout un goût pour l'étude exceptionnelle qui va l'aider à s'extraire de ce milieu peu
Elle est un peu autodidacte, hein, avec une espèce de passion.
Alors, elle passe quand même le baccalauréat, elle se remet à l'étude, elle passe le bac en 1896, et elle fait des études de médecine, et elle devient une brillante anthropologue.
Une des premières femmes médecins, enfin, il y en avait quelques-unes, mais pas beaucoup tout de même.
Non, elles étaient encore assez rares, une centaine environ, et elle se spécialise en anthropologie, après Clémence Royer, qui avait ouvert la voie, et dont Geneviève Fraisse a fait une biographie. Et puis en psychologie aussi, où là, elle ouvre vraiment la voie aux femmes, puisque le concours de l'internat était fermé aux femmes. Donc elle mène campagne pendant un an avec le soutien de la Fronde, de Marguerite Durand. Et en 1903, le concours est ouvert grâce à elle.
Mais vous voyez, il y a là une différence entre la société française et la société allemande, surtout la société prussienne. Parce que Clara Tsetskine se battra pour le droit des femmes aux études secondaires et aux études supérieures. Et ce droit n'existe pas en Prusse du tout. Et il faudra attendre. Il existe dans les États du Sud, ça commence, mais ça sera uniquement dans les années qui précèdent la guerre que les universités en général, la médecine, c'est une horreur. Comment une femme qui pourrait toucher des entrailles, c'est pas possible, mais ça convient pas à sa féminité. La société, c'est important parce que la société wilhelminienne est une société non seulement masculine, non seulement autoritaire, et très différente, me semble-t-il, de la société française de l'époque. Assez différente, en tout cas, de la société française de l'époque.
Madeleine Pelletier s'entendait très bien, par exemple, avec le grand anthropologue Charles Le Tourneau.
Oui, et Léonce Benouvrier aussi, qui avait eu des théories féministes dans sa discipline, qui essayait de contester l'infériorité biologique des femmes.
Ce qui était une idée très répandue à l'époque.
Elle a su faire une alliance avec des scientifiques qui avaient des opinions plutôt féministes, qui étaient francs-maçons, progressistes.
Et alors, puisqu'on parle de vie privée, comment vous avez dit, elle reste célibataire, comment est-ce qu'elle mène sa vie privée puisqu'on a parlé un petit peu de celle de Clara Zetkin.
Elle a la vie d'une militante toujours déçue par les organisations qu'elle fréquente.
Y compris féministe.
Oui, mais elle est mal reçue aussi.
Elle est mal reçue.
Elle défend des idées féministes particulièrement radicales. Mm. Elle a un caractère difficile.
Oui, oui.
Elle est très exigeante vis-à-vis des femmes, surtout.
Oui, oui. Elle dit qu'elle regrette d'être une femme, en définitive. Elle le dit. Hein.
Elle l'écrira plusieurs fois. Oui, quel malheur d'être une femme. Mon sexe est le grand malheur de ma vie.
Oui. Elle aurait aimé être un homme.
Alors,
oui.
ça m'a amusée
c'est
de voir la
différence entre les deux.
Tout à fait. Oui, c'est une opposition.
Sa féminité, Madeleine Pelletier la repousse.
Assez fort.
Oui, tandis que Clara Zetkin l'accepte parfaitement et elle veut simplement obtenir l'égalité.
Je dirais même leur physique, quand on voit les photos, Clara Zetkin est un peu bourgeoise, enfin, si on peut dire. Elle a les grands chapeaux de l'époque.
Après sa vie parisienne, elle est prolétaire.
Oui,
elle n'est bourgeoise.
Mais c'est pas un reproche, hein.
Non, mais c'est une constatation. c'est une constatation. Elle a une vie très difficile. Au début, songez qu'elle commence à être préceptrice, elle n'a pas de poste d'institutrice à cause de ses idées, justement. Mm. Et ensuite, à Paris, je le disais, elle mène pendant 8 ans
une vie de galère. Alors, Madeleine Pelletier, au contraire, elle veut s'habiller en homme, avoir les cheveux courts, les
ricane
plats.
Des grands chapeaux de Clara Zetkin. Elle les trouve ridicules.
Les grands chapeaux sont les chapeaux de l'époque.
Oui,
mais elle préfère le chapeau melon et le costume masculin avec la canne.
Elle a une allure d'ailleurs de Charlot, un petit peu triste. Maintenant, suivons nos deux femmes dans leurs itinéraires. Parlons par exemple de leur socialisme, de l'une et de l'autre. Alors, Clara Zetkin, quel est son socialisme et quelle est sa place dans la social-démocratie?
Voilà. Alors ça, c'est deux points, c'est deux questions un peu différentes. Son socialisme, c'est au début le socialisme classique. Elle est dans la social-démocratie, elle est la première femme qui accède à des postes de dirigeant, de direction dans la social-démocratie, ou plutôt à une place dans un organisme de direction, c'est la commission de contrôle qui est à la tête de la social-démocratie allemande. Elle est parfaitement intégrée dans ce socialisme-là, qu'elle considère comme l'avenir de l'humanité tout entière, des femmes et des hommes. Bien. Et elle n'aura de conflit avec la social-démocratie, surtout qu'à partir de 1905-1906, où là, elle commence à s'allier de plus près avec Rosa Luxembourg, dont elle est l'amie depuis longtemps, depuis la venue de Rosa Luxembourg en Allemagne en 1898. Les deux femmes se sont rencontrées, sont devenues amies très vite. Et c'est seulement tout de même à partir de 1906-1907 que Clara Zetkin est militante de l'aile gauche de la social-démocratie. Et elle aura aussi affaire, dans la social-démocratie, au préjugé anti-féminin qui est encore très fort. Ça aussi, je l'ai découvert, parce qu'on veut bien avoir les femmes comme adhérentes, quand on peut les avoir comme adhérentes, parce qu'en Prusse, elles ne peuvent pas adhérer avant 1908, elles ne peuvent même pas assister à des réunions publiques, c'est interdit. Mmh. Elles sont traitées comme les enfants et les mineurs. Et les handicapés mentaux aussi. Oui. Et alors donc, mais à partir, on veut bien les avoir, mais on ne veut pas tellement avoir d'organisations séparées. D'organisation. Oui,
ça.
Pas d'organisation séparée. Et au fond, on ne veut pas les avoir comme dirigeantes politiques.
On les préfère femmes de militants.
Ou soit femmes de militants, ou alors on les circonscrit dans un domaine particulier, c'est l'assistance. J'allais dire. Y compris dans les conseils municipaux, on leur dit, occupez-vous de l'assistance.
Les femmes sont les représentantes des pauvres.
Voilà. Ou les assistantes sociales. Voilà.
Oui.
Mais elle réussit tout de même à s'imposer comme militante à part entière, grâce en particulier au journal qu'elle va diriger et dont elle va faire.
Et qui s'appelle comment?
L'égalité. Et oui.
En allemand?
Die Gleichheit. Mais je crois que c'est important ce nom. C'est pas un hasard si elle l'appelait. Parce qu'avant, il s'appelait Die Arbeiterin, la travailleuse. Et il est devenu Die Gleichheit, l'égalité. Et elle va en faire un journal tout à fait remarquable et extrêmement lu. 125 000 abonnés, eux. En 1914,
oui, ça,
125
000. Tout à fait étonnant. Mais ça tient un peu aux structures de la social-démocratie allemande, qui est plus massive aussi.
Pendant longtemps, c'est vrai, vous avez raison. Mais il n'empêche que pendant longtemps, il y aura plus d'abonnés au journal de, que dirais-je, Clara Zetkin, que d'adhérentes à la social-démocratie allemande.
C'est vrai.
Et c'est quand même étonnant. Oui. Et alors, dans ce journal, elle va défendre toute une série d'idées, et ce journal sera lu, et elle, c'est un journal difficile, hein. Je veux dire qu'elle ne, c'est pas un journal de divertissement, non, elle fait pas de concessions, elle essaie de, d'élever le niveau culturel et politique des adhérentes et des abonnés.
Oui.
Alors, et c'est pas facile.
C'est pas facile. Alors, Madeleine Pelletier, elle, par rapport au socialisme français,
alors, la grande différence avec Clara Zetkin, c'est qu'elle est à la fois féministe et socialiste. Et elle le devient d'ailleurs la même année, en 1906. Elle adhère à la SFIO. Elle se retrouve dans le courant guédiste. Elle refuse le jaurécisme. Elle les considère comme des républicains progressistes, certes, mais bon. Elle choisira tout le temps les courants qu'elle trouve, qu'elle situe à l'extrême gauche. Et elle deviendra hervéiste ensuite. Bon, mais la grande différence, c'était qu'elle est engagée dans des associations féministes et qu'elle accorde la priorité au féminisme autonome et qu'elle fait donc une alliance avec le Parti socialiste. Elle essaiera ensuite de le faire avec le Parti communiste dans ses premières années.
Elle parvient tout de même à un poste important à la CFIO, au comité.
Oui, et paradoxalement, quand elle est dans la tendance hervéiste, alors que c'est vraiment la tendance la plus anti-féministe du parti.
Elle entre à la commission administrative.
À la commission administrative, oui, c'est important. Ça.
Pendant qu'Hervé est en prison, oui, elle remplace Hervé. Elle a un poste de remplaçante, et quand Hervé revient, d'ailleurs, à ce moment-là, elle retrouve le courant guédiste et elle est éliminée de la direction.
Oui. On a tout de même l'impression qu'elle a moins d'influence dans le socialisme français que Clara Zetkin.
Oui, mais c'est quand même grâce à elle que la SFIO adopte le principe du droit de vote des femmes à partir de 1906.
Ah oui. Si tard.
Si tard.
Par rapport à l'Allemagne, en Allemagne, la social-démocratie a adopté le principe, mais vous avez bien précisé, adopté le principe, c'était facile d'adopter un principe, mais au fond...
La réalité, c'était autre chose.
La réalité, c'était autre chose. Et elle...
Quel est le moment où les femmes votent en Allemagne, vous vous rappelez?
1919, pardon.
1944
en France. Voilà. Ça, c'est...
Et ma thèse, c'est que si ce vote a été accordé, on le doit, pour une part, n'exagérons pas, mais pour une part, à la bataille fantastique qu'a menée Clara Zetkin, surtout à partir du congrès de Stuttgart en 1908. Et d'ailleurs, vous savez que Clara Zetkin est à l'origine de la Journée internationale des femmes. Une chose qu'on oublie quelquefois, c'est elle. Oui, c'était le premier, c'était pas fixé le 8 mars, mais c'était au début de mars.
Quand est-ce que ça a commencé?
En 1910. C'est en 1910 qu'au congrès de Copenhague des femmes socialistes européennes, dont Clara Zetkin était la secrétaire internationale, elle avait été élue à Stuttgart secrétaire internationale des femmes socialistes, a fait décider cette Journée internationale. Et l'objectif de la première journée internationale en 1911, ça a été la conquête du droit de vote. Et il y a eu dans Berlin et dans beaucoup de villes d'Allemagne des manifestations très importantes. On a des photos qui sont tout à fait significatives de l'importance qu'ont eu ces manifestations. Voilà.
Oui, mais Madeleine Pelletier s'est beaucoup battue en France pour le droit de vote des femmes.
Oui, avec des méthodes d'action directe. Oui. Elle a lancé des pierres contre un bureau de vote. Elle a eu un procès à cause de ça. Elle est assez insatisfaite par les méthodes utilisées majoritairement par les féministes.
Elle s'est rencontrée avec Clara Zetkin à Stuttgart. Elles ont été sur la même, pour une fois, elles ont été sur la même ligne.
Mais Madeleine Pelletier n'accepte pas d'être reléguée dans la propagande parmi les femmes. Voilà, elle n'accepte pas la sectorisation dans les partis.
Mais Clara Zetkin non plus, hein.
Si. Enfin, une des décisions du congrès de Stuttgart, c'est justement de créer des sections féminines au sein des partis socialistes. Et ça, Madeleine Pelletier refuse. Une fois rentrée en France, elle maintient son principe de l'indépendance des luttes féministes. Et d'autre part, dans les partis, elle refuse la petite classe pour les femmes.
Elle n'aime pas les organisations séparées.
du tout. Non, elle les trouve inutiles et elle a raison pour la France en tout cas, puisque le groupe des femmes socialistes qui sera fondé en 1913 et qui va vite tomber sous l'influence de Louise Saumonneau sera antiféministe. Oui. En s'appuyant d'ailleurs sur les résolutions de Stuttgart et en s'inspirant parfois des idées de Clara Zetkin, Clara Zetkin, on la connaît quand même pour cette interdiction qu'elle a proférée en 1907 de l'alliance entre les féministes bourgeoises et les femmes du mouvement ouvrier. Et cette résolution va peser très lourdement en France et va produire un divorce assez grave entre le mouvement ouvrier et le mouvement féministe, qui n'est pas aussi bourgeois qu'on le croit. Est dirigé par des avocates, par des journalistes, par des institutrices des femmes qui ont leur notice dans le métro.
Je ne contesterai pas ce que vous dites du mouvement féministe bourgeois en France, mais je le contesterai pour l'Allemagne. Le mouvement féministe bourgeois allemand refuse la participation de tout mouvement féministe socialiste, il la refuse. Et puis, c'est un mouvement de bonne compagnie dans une société wilhelminienne dont vous semblez méconnaître la pesanteur. Il y a un mouvement. Je vais vous dire.
Le mouvement féministe allemand est très varié. Il a des tendances très bourgeoises, très conservatrices, assez peu démocratiques, et des tendances pacifistes, d'inspiration libertaire, néo-malthusienne. Tout à fait. Et cette aile radicale du mouvement féministe ne peut pas faire alliance avec les femmes de la social-démocratie.
Une femme comme Mina Kauer, dont je raconte à la visite de Clara Zetkin à Mina Kauer, et Lily Brown, qui est cette aile radicale, elle est collaboratrice avec Clara Zetkin de la Gleichheit. Bien sûr, après, il y a rupture, mais ça dépend aussi des tempéraments personnels. Vous savez, Lily Brown... Si, ça dépend des tempéraments personnels. Vous savez, Lily Brown, elle devient ensuite, elle devient l'apologiste de la guerre. Enfin, en 1914, c'est aussi des personnages. Bon, je ne veux pas condamner Lily Brown.
On ne peut pas réduire
pas
à
du
cela
tout,
Lily
pas
Brown.
Du tout. Non, pas du tout. Mais je veux dire qu'il ne faut pas non plus opposer Lily Brown, qui serait la féministe avec un grand F, et Clara Zetkin, qui serait l'étroite social-démocrate. Je crois que ça n'est pas exact. Il faut lire ce qu'elle a écrit et ce qu'elle a fait.
Oui, il y a quand même, me semble-t-il, un terrain où elles diffèrent beaucoup toutes les deux. Et qui est le problème, par exemple, de la contraception, de l'avortement.
Oui, Madeleine Pelletier intéressant défend de parler de cela. La libération sexuelle à travers plusieurs ouvrages. Elle militera pour le droit à l'avortement, y compris après le vote de la loi de 1920. Et elle en sera victime, puisqu'elle va être arrêtée en 1939 pour avoir pratiqué un avortement sur une...
Elle était médecin, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais il y a chez elle...
Sur une jeune qui avait été violée par son frère.
Une
fille-mère
qui avait été violée,
Mais Clara Zetkin est opposée tout de même, et elle le dit, elle l'écrit au fameux paragraphe 218... c'est-à-dire qui criminalise l'avortement et qui punit d'avortement. Dans le Parti communiste allemand, il y a eu à l'époque des gens comme Friedrich Wolf, médecin et écrivain, qui ont été poursuivis justement pour sous l'accusation d'avortement. Et ce parti s'oppose, et Clara Zetkin très nettement, quand même au paragraphe 218.
Oui, ne faites pas. Le PCF aussi.
Je ne veux pas. Ne faites pas de Clara Zetkin, comment dirais-je. Ne dites pas qu'elle est opposée à l'avortement.
Personne n'a dit ça.
On avait l'air d'opposer. Au contraire.
Elle est assez réservée, comme les marxistes orthodoxes en général, devant le néo-malthusianisme, par exemple.
Tout à fait.
Madeleine Pelletier est une néo-malthusienne parce que les néo-malthusiens disent « Femme apprend à n'être mère qu'à ton gré ». Enfin, ayant tout de même une position plus individualiste et plus moderne devant la naissance. Et c'est là qu'il me semble qu'il y a une différence entre les deux, non,
puis,
Christine
Madeleine Pelletier défend serait favorable à une désagrégation de la famille, titre d'un de ses livres.
Non, elles sont pas du tout
elle pense que l'oppression des femmes s'enracine surtout dans la structure familiale. Donc c'est pour cela qu'elle défend la virginité pour les femmes, le célibat comme
position
moyen
assez
de se libérer.
Effectivement, des femmes à cette époque, oui.
Oui, elle est en même temps vierge et favorable à la libération sexuelle. Mais ça a d'ailleurs suscité des débats au colloque sur Madeleine Pelletier, toutes ces contradictions qu'on pourrait relever.
Elle est très contradictoire. Mais elle est passionnante à cause de ça, oui.
Moi, je pense au contraire qu'elle a une logique de l'égalité, une logique féministe radicale qu'elle applique à tous les domaines.
Oui, oui.
Sur la famille, ne faisant pas non plus de Clara Zetkin la gardienne de la famille. Je le disais tout à l'heure, elle a vécu en union libre avec Ossip, dont elle a eu 2 enfants. Elle a vécu ensuite en union libre pendant quelques temps avec le jeune peintre, avant de se marier, probablement pour ne pas choquer trop son entourage. Mais enfin, vous voyez, elle n'est pas une gardienne orthodoxe de la famille. Pas du tout. Pas moraliste, pas du tout.
Alors, toutes les deux, si différentes, vont évidemment rencontrer les grands événements de l'époque, la guerre et la révolution russe. Alors ça, il est intéressant, dans le peu de temps qui nous reste, de comparer leurs attitudes. Que pense Clara Zetkin de la guerre, par exemple? Il semble qu'elle est très violemment heurtée.
Ah oui, elle est très violemment heurtée. Aragon, dans les cloches de Bâle, rappelle son appel pathétique en 1912 contre la menace de guerre qu'on voit venir, contre la guerre qu'on voit venir. Et surtout, Clara Zetkin, qui hésite à prendre des initiatives quelquefois dans sa vie, elle en prend une capitale, c'est d'organiser en 1915 la première conférence internationale contre la guerre. Mmh. Et c'est une conférence de femmes qui se tient à Berne. Mmh. Et ça, c'est une action courageuse, ça lui vaudra la prison, d'abord, quelque temps, et ensuite, c'est à mon avis la première réunion. On parle toujours de Zimmerwald et de Quintal, c'est très bien, mais Berne, c'est en 1915, c'est avant, et c'est Clara Zetkin qui l'a fait, et qui l'a fait seule. Je veux dire, parce que Rosa Luxembourg est en prison, Liebknecht va être emprisonné un peu plus tard, et donc les spartakistes à ce moment-là sont très faibles et à peine existants, et c'est elle qui prend sur elle d'organiser cette conférence.
Mais Madeleine Pelletier.
Madeleine Pelletier traverse une période de dépression pendant la guerre, donc elle est peu active. Mais des féministes qui sont un peu dans sa mouvance vont avoir des activités pacifistes.
Est-ce qu'elles avaient des liens ensemble avec les femmes allemandes?
Non,
pas tellement, pas vraiment.
Pas via le Parti socialiste.
Oui, oui, oui.
Mais enfin, des liens entre les associations féministes existaient.
Oui, oui.
Alors, donc dans le mouvement féministe allemand et dans le mouvement féministe français, une minorité pacifiste va se constituer à partir de 1915. Et certaines vont se rencontrer au congrès de La Haye, qui est aussi un vaste congrès, plus de 1000 délégués. J'ajouterai, pour continuer la polémique sur Clara Zetkin, que certes, elle a joué un rôle très important dans l'organisation du pacifisme pendant cette guerre, mais qu'en même temps, sa déclaration à la conférence de Berne n'a rien de féministe. Elle s'appelle « Femmes, où sont vos maris, où sont vos fils ?» Les femmes sont ramenées à leur famille. Au congrès de La Haye, elles vont essayer de concilier le pacifisme et le féminisme en liant les droits politiques à l'établissement d'une paix durable.
Oui. Vous savez que tout à l'heure, avant l'émission, je vous ai lu quand même sur la conférence de La Haye l'opinion d'un rapport de police français en disant que toutes ces déléguées et tous ces mouvements étaient au fond des gens qui défendaient tout à fait les points de vue patriotiques. Les points de vue patriotiques, ça voulait dire qu'on acceptait la guerre et qu'on acceptait la position des gouvernements des différents pays belligérants. C'est pas tout à fait la position de Clara Zetkin.
Oui. Alors, il resterait un dernier point qu'on va avoir peu le temps de développer, mais c'est leur attitude à l'une et à l'autre devant la révolution russe. Très brièvement, comment l'une et l'autre réagissent-elles? Madeleine Pelletier, par exemple.
Madeleine Pelletier décide d'aller voir sur place dès 1921 et elle publie l'année suivante son récit, Mon voyage aventureux en Russie soviétique. Et elle en revient assez avec un jugement mitigé. Elle a vu la violence, elle a vu la famine, les surveillances policières, elle a même eu peur. Elle a un passé d'anarchiste et un passé de collaboration avec les anarchistes
Et à ce moment, est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle va finalement plutôt rester dans la mouvance libertaire
et
sans trop...
Elle va continuer à publier dans la presse libertaire et pourtant elle reste au parti jusqu'en 1926.
Jusqu'en 1926.
Ce qui est quand même étonnant.
Bon, oui.
Elle joue un rôle marginal
à ce moment-là. Et ce n'est pas le cas de Clara Zetkin.
Ce n'est pas du tout Clara Zetkin. Clara Zetkin, qui connaissait Lénine pour l'avoir rencontré à Stuttgart avant la guerre, va être la première femme allemande qui soutient sans réserve, plus que Rosa Luxembourg, le mouvement des bolcheviks. Et elle va très vite en Russie soviétique, pardon. Elle rencontre Lénine, elle devient son amie, elle a avec lui des entretiens qui sont intéressants parce que, au point de vue féministe, parce que Lénine lui dit comment se fait-il, les femmes allemandes, au lieu de se consacrer toutes à la révolution, parlent sexualité, psychanalyse, et Clara Zetkin les défend en disant, vous savez, la guerre a été un tel traumatisme pour les femmes, a créé des situations si terribles qu'il est explicable qu'elles s'intéressent
elle
à ces
questions. Elle les excuse un petit peu. Quoi.
Non, elle explique. Il ne s'agit pas d'excuser, il s'agit d'expliquer. Donc, elle va devenir, en Union soviétique, la militante occidentale la plus connue. Beaucoup plus connue que Cachin, que n'importe quel militant français qui voyage en Union soviétique. Ce que a vu Madeleine Pelletier ne surprend pas. Russie soviétique en 1920...
C'était une catastrophe.
C'est une catastrophe. Et encore en 1920, ça peut aller. En 1921, il y a cette famine terrible qui va provoquer, on évalue à 6 ou 7 ou 8 millions de morts, les gens qui vont mourir de faim à cette époque-là.
Mais ce qui frappe chez Madame Pelletier, c'est qu'elle le raconte. Qu'elle envoie immédiatement des articles à la presse. Qu'elle publie un récit. Et donc, c'est quand même un rapport aux politiques, aux organisations, à la révolution, qui est quand même l'événement important qu'on a envie, qu'elle a certainement elle aussi envie de respecter. Mais il y a quelque chose qui la pousse à vraiment tout mettre sur, à la disposition des militants, à la disposition des lecteurs. Et son récit, à la fois extrêmement, il mériterait d'ailleurs d'être réédité, parce qu'il est,
il est
succulent. Mais elle a aussi beaucoup de respect pour un certain nombre de décisions qui sont prises là-bas. Elle essaye de maintenir un équilibre, puisqu'au bout du compte, elle reste à l'intérieur du parti. Mais en ce sens-là, ce n'est pas une dirigeante d'organisation. Oui. Clara Zetkin est sans doute plus capable d'habileté, de patience. Elle peut, dans des lettres privées, elle peut être très ferme, très dure, très critique, mais elle ne prend pas le risque que prend Madame Pelletier, qui est de s'ouvrir très largement à un public.
Là, tu fais une allusion à une période postérieure. En 1920, ce qui domine, c'est son enthousiasme, c'est vrai, mais en soulignant, comme Madeleine Pelletier, d'après ce que je viens d'entendre, les droits nouveaux dont bénéficient les femmes. Mais en même temps, la misère, elle la voit. Elle voit, elle raconte des femmes, elle rencontre des femmes d'une ouvrière d'une usine textile qui écrivent à Lénine en disant « Oui, on voudrait bien travailler pour la révolution, mais si vous pouviez nous donner des bottes. » Et elle voit, elle participera à ce qu'organise Münzenberg, c'est-à-dire l'aide à la Russie soviétique qui est en train de crever de faim, si je puis dire. Et dans la période suivante, oui, c'est vrai. Alors là, elle reste fidèle à la révolution jusqu'au bout. Et ces critiques sont des critiques privées dans la correspondance.
Beaucoup de choses à dire encore sur ces deux femmes. Vous voyez à quel point il est nécessaire de les redécouvrir. Et il faut remercier beaucoup Gilbert Badia pour sa biographie, Clara Zetkin, féministe sans frontières. Remercier Charles Sauerwald et Claude Ménien pour Madeleine Pelletier, une féministe dans l'arène politique, pour le colloque dirigé par Christine Barr, Logique et infortune d'un combat pour l'égalité, qui est publié par Côté Femmes. Les deux biographies ayant été publiées aux éditions ouvrières. Et enfin, rappelons que le cœur de notre émission était le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, le Métron, que Claude Pelletier a mené à bien.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 avril 1993.